Chapitre 10. La mère de Lily lui a transféré 100 livres qu'elle va utiliser en partie pour prendre le train jusqu'à Londres. Elle veut se rendre au bureau de Karl pour retrouver sa trace. C'est la première fois qu'elle va à Londres seule. Le guichet automatique la laisse perplexe. Comment marche ce truc-là? Elle va faire la queue pour demander de l'aide à un employé. « Bonjour !» s'exclame-t-elle lorsque vient son tour. « Je dois aller à Londres. »«
Aller-retour ?»
demande l'employé, impassible. « Oui, s'il vous plaît, je veux faire mon retour aujourd'hui aussi. » Maintenant, l'employé lui sourit. Elle a dû lui dire quelque chose de stupide. Il prend son billet de 20 livres, imprime 2 titres de transport et les lui tend.
« Quai 3 dans 7 minutes !»
Elle attrape les billets, sa monnaie et le remercie. Dans le train, elle regarde son nouvel univers défiler. Des carrés verts vifs et jaune acide. Le dos d'usines et d'entrepôts. Des rangées de maisons de briques rouges avec les mêmes jouets pour enfants éparpillés sur les pelouses. C'est un monde inconnu. Et Karl a disparu. Elle a envie de pleurer, mais elle ne peut pas, pas maintenant. Pas dans ce train plein d'étrangers. Elle fixe le paysage, les yeux grands ouverts. Ce n'est pas la première fois qu'elle va au bureau de Karl. Lors d'un week-end qu'ils ont passé à Londres avant leur mariage, Karl a réservé une chambre dans un hôtel du centre et ils ont dîné dans un gratte-ciel qui offrait une vue magnifique sur la capitale britannique tout illuminée. Il a voulu lui montrer où il travaillait. C'est un bâtiment assez bas, symétrique, avec une façade de verre sombre et d'acier brossé. Au centre se trouve une porte tambour automatique qui débouche sur un hall tout en noir et chrome. Une grande cascade sur un mur en inox décore le fond de la pièce. Elle regarde sa montre. 16h40. Dans 20 minutes, Karl devrait sortir de son bureau. En attendant, elle s'assied dans le hall de la gare et joue à Candy Crush sur son téléphone. À 16h55, elle s'imagine Karl éteindre son ordinateur, mettre sa veste, fermer sa sacoche et dire au revoir à ses collègues. Dirait-il au revoir à ses collègues d'ailleurs? Peut-être que non. Karl n'est pas vraiment le genre à lancer des au revoir à la ronde. Il ferait plutôt un geste silencieux ou dirait simplement « à demain ». Ensuite, il doit attendre l'ascenseur, jeter un œil à son portable, à sa coiffure. 20 secondes plus tard, monter dans l'ascenseur, compter les étages dans sa tête, traverser le hall, sortir dans la rue et rejoindre la gare. Victoria n'est qu'à 2 minutes à pied. Elle observe les panneaux d'affichage à la recherche du train de Karl. Celui de 17h06 à destination d'East Grinstead, quai numéro 4. Elle observe les visages des gens qui montent dans le train. L'ont-ils déjà croisé? Sont-ils en mesure de le reconnaître puisqu'ils voyagent chaque jour avec lui? Une fois dans le train, elle s'assied en face d'un homme, inspire profondément et cherche dans son sac la photo de Karl. « Excusez-moi, monsieur, » lui dit-elle d'une voix un peu plus dure que prévue. Il la regarde avec un air ouvertement suspicieux. Il doit penser qu'elle va lui demander de l'argent. « C'est mon mari sur cette photo, » poursuit-elle en plaçant le portrait sur la table qui les sépare. « D'habitude, il prend ce train tous les jours, mais il a disparu. » L'homme recule légèrement, toujours persuadé qu'elle mendie. Elle s'empêche de l'insulter. « Il a disparu vraiment, il y a une enquête de police. »«
D'accord. »«
Vous l'avez déjà vu ?»
Il observe la photo et secoue la tête.
« Jamais vu de ma vie. »
Merci. Elle range le portrait précipitamment. Son visage est rouge vif et elle commence à trembler de colère. Elle change de place et se retrouve assise entre 3 amis qui sentent la cigarette et le vin. Inutile de leur demander de l'aide. Elle parle si fort, si vite et il est évident qu'elle ne rentre pas du travail. Un homme en costume est assis à sa droite. Elle sort la photo et se lance.
Excusez-moi.
Dit-elle rapidement pour entrer dans le vif du sujet et ne pas laisser à son interlocuteur la possibilité de la juger.
« Mon mari a disparu et il prenait ce train tous les jours pour rentrer du travail. Est-ce que vous le reconnaissez ?»
L'homme sort des petites lunettes de sa poche de veste, prend la photo, l'observe attentivement avant de la lui rendre.
« Je suis désolée, je ne le connais pas. »
lui annonce-t-il d'une voix douce, profonde et gentille. Elle se détend et lui sourit chaleureusement en le remerciant. Elle se met à passer de voiture en montrant la photo de Karl à toutes les personnes susceptibles de l'avoir déjà vue, avec de plus en plus d'assurance. Les gens sont plutôt réceptifs à sa demande. Tout est une question de sourire avec les Britanniques. Mais Lily n'a pas l'habitude de sourire sans raison.
Elle réserve cela à ses amis, au bébé, aux plaisanteries et à sa famille. Pas aux étrangers dans un train. Mais elle fait un effort, et quand la rame s'arrête à Hoxted, elle a parlé à une trentaine de personnes qui lui ont toutes répondu qu'elle ne l'avait pas vue. Certains ont demandé son nom, depuis combien de temps il avait disparu, et lui ont souhaité bon courage, sincèrement. À la sortie de la gare, elle cherche des yeux la dernière personne qui aurait vu Carl un jour normal. L'employé qui vérifie les billets. Mais il n'y en a pas. Il n'y a qu'une machine. Elle soupire. Elle espérait vraiment trouver quelqu'un qui l'aurait aperçue. Elle se met en route pour rentrer à la maison. Elle passe devant plusieurs magasins, et encouragée par les réactions des passagers du train, elle s'arrête pour montrer la photo. Le caviste le reconnaît, lui dit que Carl venait de temps en temps acheter une bouteille de vin.
Un homme élégant.
Merci. Quand les magasins sont remplacés par des maisons en briques, Lily quitte la route principale et s'enfonce dans le labyrinthe de petites rues qui se croisent et se ressemblent toutes. Tourne à gauche, à droite, à gauche, et encore à droite, jusqu'à une grande route où sont situés un supermarché et d'autres commerces. Elle y va lorsqu'elle se sent trop seule dans l'appartement. Elle aime particulièrement le Starbucks, où elle peut lire le journal pour avoir des choses à raconter à Carl quand il rentre du travail. Une fois ces boutiques dépassées, le paysage change. De petites maisons individuelles bordent la route. Des pavillons, comme les appelle Carl. Il n'y a pas de magasin, et personne ne marche dans la rue. Puis, elle passe devant le chantier de nouveaux logements collectifs qui porteront le nom de résidence Wolfshill Boulevard, comme l'annonce le grand panneau à l'entrée. Carl rit toujours en passant devant. Un boulevard à Hoxted, mais bien sûr. Lily s'arrête et observe un instant les bâtiments en construction. Ils sont vides, personne n'y travaille. Depuis qu'elle habite ici, elle n'a jamais vu quiconque entrer ou sortir du chantier. Le premier immeuble est plus avancé que les autres. Les fenêtres ont été posées et le crépi appliqué. Les ouvriers ont commencé à travailler sur le deuxième bâtiment, qui n'est pour l'instant qu'un ensemble de poutres et de bâches en plastique gonflées par le vent. Le soleil s'est couché, le ciel a l'air d'une tenture de velours bleu et les voitures qui passent éclairent la jeune femme de leur faisceau d'or. Elle est seule sur cette route. Un frisson glacé parcourt son corps. Elle regarde à nouveau le bâtiment inachevé le plus proche d'elle et se rend compte qu'une petite lumière vacille au premier étage. Elle poursuit son chemin, mais cette lumière l'intrigue. Elle décide d'en parler à la police. Ce n'est probablement rien, mais on ne sait jamais. Après tout, c'est la seule chose qu'elle a remarquée depuis la disparition de Carl. Elle appelle la police en rentrant. « Bonsoir, Madame Travis ?»«
Agent Travis. » »«
Excusez-moi, Agent Travis. » C'est Lily Monrose, la femme de Carl Monrose.
Je sais qui vous êtes. D'ailleurs, vous tombez bien, j'allais vous appeler. Nous aurions besoin d'accéder à l'ordinateur de votre mari. Son passeport a probablement été acheté sur le Darknet. Nous aimerions pouvoir examiner ses recherches en ligne et sa boîte mail.
Je ne comprends pas. La policière se tait un instant. Lily sait qu'elle la prend pour une idiote qui lui fait perdre son temps.
Ce type de passeport, madame, demande beaucoup de travail et coûte très cher. Les gens qui les fabriquent se cachent dans les recoins les plus sombres et difficilement accessibles du web. Pour obtenir ce document, votre mari a nécessairement été en contact avec des criminels. Et probablement pendant assez longtemps. Pour les besoins de l'enquête, nous devons trouver ces personnes grâce à l'ordinateur de votre mari.
Je ne vois pas pourquoi ces gens sauraient où est Carl. Après une nouvelle pause, l'agent Travis reprend.
Il est possible que ces gens aient des informations sur sa disparition, ou y soient liés. Si, par exemple, votre mari leur devait de l'argent ou menaçait de les dénoncer aux autorités.
Le souvenir de la petite lumière dans l'immeuble en construction lui revient à l'esprit. Son sang ne fait qu'un tour. Des gangsters. Des criminels. Elle n'y avait même pas pensé. D'ailleurs, je voudrais vous parler de quelque chose. Ce n'est probablement rien, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le chantier à côté de chez nous. Dans l'un des immeubles en construction, il y a de la lumière, à une seule fenêtre, et c'est complètement vide. Alors je pensais que... Elle s'arrête. Que pensait-elle déjà? Elle ne sait plus, mais c'est louche. Elle a eu une sorte de pressentiment, c'est tout. Enfin, c'est vraiment bizarre, continue-t-elle.
D'accord. Si vous êtes chez vous, je pourrais passer dans quelques minutes pour prendre l'ordinateur.
Oui, je suis à la maison, vous pouvez venir. Mais je ne connais pas son mot de passe.
Ce n'est pas un problème. Notre service informatique va s'en charger.
D'accord, je vous attends. Et quand vous serez là, je pourrai vous montrer le chantier pour que vous voyez cette lumière.
Je ne suis pas sûre d'avoir le temps. On verra sur place.
La policière est accompagnée d'un jeune homme en civil qui porte de grosses lunettes et une boîte en carton. Il passe un temps interminable dans la chambre d'amis, là où se trouvent le bureau et l'ordinateur de Carl, pendant que Lily reste assise sur le bord du sofa, stressée, les bras croisés, le regard fixé sur l'horloge.
Pourquoi ça prend si longtemps ?
Il y a toute une procédure. On ne peut pas débrancher l'ordinateur et partir comme ça.
Lily hoche la tête et prend son mal en patience. Elle entend les tiroirs s'ouvrir et se fermer. L'homme apparaît dans l'embrasure de la porte.
« Vous avez la clé du tiroir du bureau ?»
demande-t-il à Lily.
« Non, je l'ai cherchée, mais je pense qu'il l'a gardée sur lui. »«
Est-ce que ça vous dérange si je fais un trou pour l'ouvrir ? Au cas où il y aura une carte mémoire ou quelque chose comme ça à l'intérieur. »
Lily se raidit. Elle s'imagine Carl rentrer à la maison pour découvrir son bureau IKEA tout neuf en morceaux, ses affaires sans dessus-dessous, son ordinateur disparu. Puis, une autre pensée lui vient à l'esprit. Carl lui a menti. Elle ne connaît même pas son vrai nom. Et il avait un tiroir secret dans leur maison dont il gardait la clé sur lui. Elle veut en avoir le cœur net.
« D'accord, mais faites attention s'il vous plaît. »
Le jeune homme lui sourit et retourne dans la chambre d'amis. 10 secondes plus tard, elle entend le bruit strident d'une perceuse qui s'enfonce dans le bois, puis le type sort à nouveau de la pièce, sa boîte en carton dans les mains.
« C'est bon pour moi !»
annonce-t-il comme si tout était parfaitement normal.
« Vous avez fini ?»
Il lui montre le formulaire qu'il lui a donné à remplir en arrivant pour obtenir des informations personnelles. Date et lieu important, animaux de compagnie, nom des parents, surnom.
« Oui !»
répond-elle en lui tendant la feuille qu'il dépose dans son carton.
« Parfait, alors on y va !»
ajoute-t-il en direction de l'agent Trévis.
« Je vous tiens au courant très vite !»
lui dit-elle en fermant la porte derrière elle. Elles n'ont pas parlé de l'immeuble en construction, ni de l'étrange lumière. Après leur départ, Lily se rassied dans le salon. Elle regarde autour d'elle, comme elle l'a déjà fait des centaines de fois depuis que Carl a disparu. Au début, elle ne voyait que son absence. Maintenant, elle voit aussi ses mensonges. Elle se lève et entre dans la chambre d'amis pour examiner le contenu du tiroir fermé.